RFI, vous écoutez la radio du monde, bienvenue, 3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une de l'actualité, la visite surprise du chef de la diplomatie ukrainienne en Syrie. Andriy Sybiga demande à Mohammad al-Joulani l'élimination de la présence russe en Syrie. Moscou, accusé par l'Azerbaïdjan d'être responsable du crash d'avion qui a fait 38 morts au Kazakhstan. La justice russe a fait savoir qu'elle cherchait les responsables de cette catastrophe. Également dans ce journal, Mayotte, où François Bayrou s'est rendu 2 semaines après le passage du cyclone Chido. Le Premier ministre français a annoncé un plan pour reconstruire l'archipel, toujours dévasté. Les écoles le sont particulièrement, vous l'entendrez. Puis en fin de journal, plus de 230 nouvelles espèces ont été recensées en Asie. En Syrie, c'est une visite surprise. Le chef de la diplomatie ukrainienne a rencontré Mohammad al-Joulani à la tête du pays. Il a demandé l'élimination de la présence russe en Syrie. La Russie, alliée de poids de l'ancien régime de Bachar al-Assad. Mais Daniel Valo, pas sûr que les nouvelles autorités syriennes l'entendent de cette oreille.
L'Ukraine a rompu toute relation diplomatique avec la Syrie en 2022 après la reconnaissance par Damas de l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais avec le renversement de Bachar al-Assad, la diplomatie ukrainienne a bien l'intention de renouer avec la Syrie. Principal message apporté par Andriy Sybiga, le chef de la diplomatie ukrainienne, les nouvelles autorités se doivent de tourner le dos à la Russie.
Le régime russe et le régime de Bachar al-Assad se sont soutenus mutuellement parce qu'ils étaient fondés sur la violence et la torture. Et nous sommes convaincus que l'élimination de la présence russe en Syrie contribuera à la stabilité non seulement de l'État syrien, mais aussi de l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Cet argument très géopolitique suffira-t-il à convaincre le nouvel homme fort de Syrie ? Rien n'est moins sûr. La Russie est un pays important, a ainsi déclaré ce dimanche Abu Mohammad al-Joulani, qui pointe les liens noués dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Pour convaincre la nouvelle Syrie de rompre au plus vite avec Moscou, l'Ukraine a cependant un argument de poids. Kiev pourrait en effet apporter à la Syrie les céréales que la Russie fournissait au régime de Bachar al-Assad. La visite du chef de la diplomatie ukrainienne à Damas a d'ailleurs coïncider avec l'annonce par Volodymyr Zelensky d'une aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé qui devrait arriver ce mardi en Syrie.
Et Volodymyr Zelensky qui annonce également un échange de 300 soldats russes et ukrainiens lors d'une médiation des Émirats Arabes Unis. La Russie, accusée par l'Azerbaïdjan d'être responsable du crash de sa compagnie aérienne. L'avion s'est écrasé au Kazakhstan faisant 38 morts. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait bouger Moscou en reprochant à la Russie d'avoir caché sa responsabilité. La justice russe a fait savoir qu'elle cherchait les responsables de cette catastrophe pour les traduire en justice. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Moscou a assuré Bakou que des mesures intensives étaient prises pour identifier les responsables de la catastrophe dont un avion d'Azerbaïdjan Airlines a été victime mercredi alors qu'il tentait d'atterrir à Grozny. Alexandre Basrikin, patron du comité d'enquête russe, a de la même façon assuré à son homologue azerbaïdjanais Kamran Aliyev que ses responsables seraient traduits en justice. Dans le même temps, il lui a annoncé que les enquêteurs les plus expérimentés avaient été mis sur ce dossier afin d'établir toutes les causes et les circonstances de cette tragédie. L'entretien téléphonique des deux hommes a eu lieu au lendemain d'une prise de parole très ferme du président azerbaïdjanais. Ilham Aliyev avait en effet accusé dimanche Moscou d'avoir voulu camoufler les circonstances réelles de cet accident et exiger des autorités russes qu'elles reconnaissent leur culpabilité, qu'elles indemnisent les victimes et que les responsables de cette catastrophe soient punis. Vladimir Poutine s'était excusé samedi auprès d'Ilham Aliyev non pas d'avoir abattu cet avion civil mais parce que cet incident tragique s'était déroulé dans l'espace aérien russe au moment où une attaque de drones ukrainiens avait lieu dans la région de Grozny. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
RFI, 21h04 à Washington, aux États-Unis, journée de deuil national le 9 janvier prochain, en l'honneur de l'ex-président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans. Des funérailles nationales qui vont durer plusieurs jours et se termineront à Washington dans une semaine. Les Américains doivent reconnaissance à l'ancien président Jimmy Carter. Réaction de Donald Trump, le futur président des États-Unis, condamné en appel à payer 5 millions de dollars pour agression sexuelle par la Cour d'appel de New York. une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 1990 et diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après. En France, il y aura un nouveau procès dans l'affaire des viols de Mazan fin 2025. 17 des 50 hommes reconnus coupables ont fait appel, à l'inverse de Dominique Pellicot, celui qui a été condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et la faire violer par d'autres hommes. Mayotte debout, c'est le nom du plan dévoilé par le Premier ministre François Bayrou pour reconstruire l'archipel après le passage du cyclone Chido. Avec 5 ministres, il dit vouloir rebâtir Mayotte en 2 ans tout en empêchant le retour des bidonvilles. François Bayrou a annoncé une loi d'urgence pour accélérer la mise en œuvre de la reconstruction. Lola Fourmi.
Un plan, oui, en 4 pages et 9 points clés sur l'électricité, l'eau, les télécoms, le logement, les écoles, la sécurité, la santé, les transports et l'économie. Un plan préparé en amont, mais aussi modifié en cette fin d'après-midi, car si les ministres ont visité ce matin une usine de dessalement d'eau, puis un collège et enfin l'hôpital de campagne, ils ont consacré leur après-midi à des réunions stratégiques avec les représentants des acteurs du territoire. Parmi les mesures que l'on peut retenir et qui auront un impact concret sur la vie des Mahorais, l'engagement de rétablir la production d'eau à son niveau d'avant-cyclone et même d'augmenter la capacité d'ici le mois de juin. Il assure aussi que l'électricité sera revenue partout d'ici fin janvier, soit 1 mois et demi après le passage de Chido. François Bayrou a aussi insisté sur le lancement d'un grand recensement de la population à Mayotte. Il affirme d'ailleurs que ce plan Mayotte debout est une manière précise et concrète de répondre aux préoccupations.
François Bayrou a quitté l'archipel en fin de journée, direction La Réunion. Avant de partir, il a précisé les modalités de la rentrée scolaire. Rendez-vous le 13 janvier pour les professeurs et le 20 pour les élèves. Une rentrée décalée d'une semaine par rapport à la date normale de reprise. Mais tous les établissements ne pourront pas rouvrir en même temps, car certains ont subi trop de dégâts. En visite au collège de Kaweni 2 ce matin, le CPE de l'établissement Antoine Piacenza s'est montré inquiet face aux annonces.
En fait, maintenant, ce qu'on attend, c'est des actes. Et les actes, depuis 2 semaines, ils n'ont pas été mis en place. La rentrée, honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Parce que nous, ça fait 2 semaines qu'on est sur place, qu'on n'a pas du tout été soutenus. Donc même moi, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis très fatigué, etc. Et c'est, je pense, un ressenti qui est un peu partagé de toutes les personnes qui ont été sur le pont depuis 2 semaines. Enfin, moi, je trouve quand même qu'il y a globalement, on a des élèves qui sont très demandeurs de l'école, parce qu'ils savent que c'est une des portes de sortie pour sortir de cette précarité. Donc oui, c'est important que les élèves reprennent l'école. Après, là où, en fait, les questions qui vont se poser, c'est que vu que toutes les écoles ne vont pas pouvoir réouvrir en même temps, il y a une question d'égalité qui va se poser. Mais c'est, est-ce qu'on ouvre que quelques écoles et on laisse certains élèves délaissés? Ou est-ce qu'on attend de réouvrir toutes les écoles en même temps? Mais c'est sûr qu'il va falloir se dépêcher de les réouvrir, ces écoles, parce qu'on a des enfants qui sont demandeurs. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que juste après Chido, j'ai croisé plein d'élèves à moi, et les premières choses qu'ils m'ont dit, c'est « Monsieur, on a perdu nos cahiers, comment on va faire pour la rentrée ?»
Des propos recueillis par Lola Fourmi. La crise politique continue en Corée du Sud. Un mandat d'arrêt a été émis contre le président destitué, Yoon Suk-yeol. Il avait été suspendu de ses fonctions pour avoir tenté d'imposer la loi martiale. La nature est pleine de surprises, car on continue de découvrir de nouvelles espèces. D'après un rapport de WWF, 234 nouvelles espèces ont été recensées en 2023 sur le continent asiatique. À quoi ressemblent-elles? Les précisions de Pauline Glaise.
Parmi les plus de 170 plantes nouvellement recensées figure une espèce de gingembre dont la racine sent la mangue. Dans la liste des reptiles, un lézard au nom intrigant, le lézard dragon karstique. Avec ce reptile découvert au Laos, ce n'est pas seulement la liste des espèces connues qui s'allonge, mais aussi celle des genres. Sa peau grise se fond sur les rochers. La topographie calcaire offre d'ailleurs des habitats isolés pour une biodiversité qui promet encore bien des surprises. Mais s'inquiète le WWF, en raison des carrières pour faire du ciment, les reliefs calcaires figurent aussi parmi les habitats les plus menacés d'Asie du Sud-Est. Au rang des autres animaux nouvellement recensés, une musaraigne top pesant à peine 8 grammes ou un triton crocodile orange vif trouvé en altitude entre 1800 et 2300 mètres. Un record pour ce type d'animal. Certaines des espèces n'étaient pas totalement inconnues, elles n'avaient simplement pas été répertoriées par les scientifiques. Une orchidée sans feuilles a par exemple été repérée sur un marché et serait, selon le WWF, déjà menacée par la surexploitation.
Et toujours en cette fin d'année, l'ONG Conservation International a annoncé avoir découvert 27 nouvelles espèces au Pérou. Bientôt 3h10 à Paris, 2h10 en temps universel, c'est ainsi que se ferme ce journal. matinale. Merci à vous de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.